Alors nous, on va vous présenter donc la certification donc pour les épreuves donc E4, E5 et E6. Donc on va revenir assez rapidement, juste en introduction, sur la construction du référentiel de certification. Mais bon, Didier puis tous les participants en ont déjà dit beaucoup. On voulait simplement, par cette diapositive, vous rappeler la manière dont il avait été construit, c'est-à-dire la déclinaison à partir du référentiel des activités professionnelles. Et donc à chaque fois, effectivement, donc on part de l'activité, compétences et donc critères de performance. Donc ce qui aboutit à nos trois blocs de compétences et donc à chaque fois une épreuve par bloc. Donc comme ça a été dit ce matin, l'idée c'est effectivement que les épreuves de certification soient vraiment en lien avec les attendus du métier et également dans leur dénomination. Et ça fait aussi écho à l'intervention ce matin d'un des professionnels qui disait que justement il trouvait que du coup les échanges étaient facilités entre les professionnels et l'éducation nationale, parce qu'effectivement on est sur quelque chose de plus lisible pour tout le monde, avec des épreuves qui ne se perdent plus, avec le métier qui ne se perd plus dans les épreuves. Voilà. Alors, juste le règlement d'examen. Alors, il ne s'agit pas d'entrer dans le détail tout de suite. On va revenir sur les E4, E5, E6. Simplement, il nous semblait important, juste en introduction, de vous donner trois éléments qui nous semblaient ressortir en fait de ce référentiel de certification. Donc, trois points saillants ici sur justement les modalités de certification de chacune des épreuves. La première, c'était d'abord, et ça a été beaucoup dit cet après-midi, on a beaucoup parlé de situations professionnelles qui sont au cœur, au cœur de l'activité des étudiants. Et donc, pour répondre justement à l'évaluation de ces situations professionnelles dans lesquelles les étudiants acquièrent progressivement des compétences, il a semblé important de renforcer la place du CCF. Donc, c'est pour ça que désormais, on retrouve le CCF en E4 et en E6. Voilà. Le deuxième point sur lequel Catherine interviendra davantage tout à l'heure, c'est sur l'épreuve 5. Simplement, donc, la disparition finalement de l'étude de cas telle que vous la connaissiez auparavant, au profit de ce qu'on a appelé une épreuve un peu plus hybride, qui prenait en compte avec une partie effectivement écrite pour vraiment répondre à justement ce qui a été évoqué ce matin, la nécessité de développer des compétences d'écrit et pas simplement d'orthographe comme ça a été souligné avec Voltaire, mais vraiment d'un écrit argumenté, structuré, et également une partie pratique avec la partie donc de 40 minutes où le candidat sera vraiment sur une épreuve liée à la digitalisation. Et le troisième point en introduction, c'était la disparition plus ou moins du projet commercial, mais juste comme support de certification. Mais ça a été beaucoup dit cet après-midi également par Marilyn et Carole, absolument pas comme modalité de formation. Voilà. Alors, pour commencer sur E4, donc simplement là pour vous rappeler les quatre activités centrales de E4 que vous connaissez bien, ça a été dit ce matin, donc... On va vite, mais effectivement, on retrouve là le cœur du métier avec les activités donc de développement clientèle, négociation vente, animation de la relation client, et puis la veille et l'expertise commerciale qui finalement irrigue le tout. A priori, un bloc assez familier pour vous. Donc là, la même chose, on a dit ce matin qu'on ne lisait pas le référentiel, ça c'est extrait du référentiel, simplement à chaque fois pour vous montrer. Donc on retrouve bien les activités, donc développement de clientèle, les compétences, donc cibler la métacompétence que vous trouvez en gras, et donc les critères de performance dont on parlera tout à l'heure. Alors, pour E4... je vais d'abord vous présenter le dossier support de l'évaluation. Alors... Alors voilà. Donc sur E4, effectivement, les étudiants vont vous présenter parmi les expériences, les activités qu'ils auront réelles, vécues ou observées, ils vont en choisir deux qui leur semblent plus significatives. Avec une qui portera forcément en fait sur la négociation vente et de l'accompagnement de la relation client, et l'autre sur l'organisation d'un événement commercial. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire que deux activités, ça veut dire que parmi toutes celles qu'ils vont mener pendant l'année, ils vont en extraire deux, d'accord, qui leur servira dans le cadre de la certification. Donc ces activités, on ne revient pas sur ce qui est marqué en gras, mais donc sont réelles, vécues ou observées, puisque comme l'a dit Didier, finalement, ça a assez peu d'impact sur l'apprentissage. Et ces activités donc, vont être décrites dans des fiches d'activités. Alors juste sur ces fiches d'activités, alors, elles sont toutes petites, mais alors, ce sont des modèles de travail, hein, qui peut-être évolueront. Voilà. Simplement, donc, pour vous les présenter rapidement, donc là, l'étudiant, coche le type d'activité qu'il a réalisé. Donc soit c'est de la négociation-vente, l'accompagnement en relation client, soit c'est de l'organisation de l'événement commercial. Enfin, il y en aura au moins une de chaque. Et donc décrit son activité en expliquant donc, le cadre dans lequel elle a été réalisée, l'analyse du contexte, son déroulement, et puis au verso, les méthodes de ciblage et prospection, et puis le travail sur l'exploitation et la mutualisation de l'information commerciale. Alors cette fiche d'activité donc, est un modèle officiel, donc ça veut dire que c'est un recto, un verso, donc il y a une contrainte de remplissage. Alors cette fiche d'activité, descriptive d'activité, ce sur quoi on souhaitait insister, c'est c'est un support de certification, puisque ça fera partie du dossier de certification pour les deux qu'ils ont retenus, mais au-delà de ça, c'est vraiment un support de formation tout au long de l'année. On a beaucoup parlé de la trace, donc c'est évidemment ces fiches descriptives d'activité, elles servent, j'allais dire, pour les activités également qu'ils ne vont pas forcément retenir, d'accord ? Et ça va être justement l'occasion pour eux de faire un travail d'enrichissement. Ils vont nourrir cette fiche, y revenir. Parfois, peut-être, ils l'abandonneront au final pour ne pas la présenter. Mais en tous les cas, elle sert aussi à la formation et participe aussi justement à la création de la trace. Alors, pour l'évaluation donc de cette épreuve 4. Alors il y a deux situations, mais bon, je pars du principe que vous connaissez, que vous avez lu en tous les cas le référentiel. Donc en fait il y a deux situations, hein. Il y a une situation A et une situation B. Alors là vous avez, on a décidé nous de les scinder pour plus de clarté. Donc la situation A, c'est une évaluation qui va porter sur les deux activités que le candidat a référencées, d'accord ? Donc celle sur la négociation-vente, celle sur l'organisation également de l'événement commercial. Et dans cette situation A, donc vous allez évaluer uniquement les deux métacompétences, donc cibler et prospecter, donc tout ce qui concerne ciblage et prospection de la clientèle, exploitation et mutualisation de l'information commerciale. Donc là, comme on l'a mis en bas, on est sur une évaluation qui finalement va se faire vraiment tout au long de la période de la formation. C'est vraiment un suivi des acquis que vous allez faire durant toute la formation, qui vont vous permettre de remplir, pour les deux activités référencées, ces deux cases uniquement. D'accord ? Pardon ? Oui, parce qu'on est en CCF, oui. Voilà, merci. Oui, c'est bon jusque-là. Voilà. À côté de la situation A, donc vous aurez la situation B. Donc la situation B, c'est un petit peu différent. Bah, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, où là vous avez vraiment l'exercice de simulation. Qui fait écho à ce que disait tout à l'heure Didier sur finalement là vous changez les paramètres, enfin il va y avoir une fiche sujet de changement de paramètres et effectivement le candidat va devoir traduire justement vous augmentez le niveau de criticité dont parlait Didier tout à l'heure. Alors sur cette situation B, en fait donc c'est une simulation qui dure 20 minutes. Et là, on vous a mis donc en rouge et en vert la partie de la grille que vous allez remplir, puisque évidemment, vous aurez là uniquement à évaluer une des deux situations. C'est-à-dire que vous allez choisir soit l'activité de négociation et d'accompagnement de la relation client, soit l'organisation et l'animation de l'événement commercial. Donc, en fonction de la situation que vous évaluez, vous allez vous retrouver soit là où il y a l'encadré rouge, soit là où il y a l'encadré vert. Et cette évaluation-là, à la différence de tout à l'heure, elle se fait vraiment à un moment très précis de la formation, lors de la simulation, qui dure donc 20 minutes. Donc 20 minutes avec effectivement un temps d'échange avec le candidat pour qu'il, voilà, qu'il puisse aussi justifier ses choix et procéder à une réflexion sur, sur son travail. Voilà pour cette situation. Alors là, on vous a simplement remis la grille dans sa globalité parce que c'est important donc, de bien comprendre que cette grille, finalement, elle a une entrée. Donc la première partie est donc remplie pour tous les candidats lors de la situation A. Et ensuite, vous avez un cheminement possible, quoi. Soit vous allez à gauche pour la négociation, l'accompagnement, la relation client, soit vous allez à droite. D'accord ? On n'aura pas les deux côtés remplis. Et enfin, l'encadré du bas également, qui est rempli forcément dans la situation A. On voulait aussi revenir, mais je pense qu'on est un peu pris par le temps, sur le fait qu'on était dans de l'évaluation par profil, et vous retrouvez donc dans cette grille donc les indicateurs de performance qu'on a retrouvés, que vous retrouvez dans le référentiel, qui sont juste des indicateurs. Hein. Il ne s'agit pas de retrouver, pour établir le profil, de sélectionner tous les indicateurs, mais de travailler comme le précisait Didier tout à l'heure. Et voilà, pour l'évaluation donc, de cette épreuve 4 donc en CCF, donc voilà, vont évaluer les professeurs, formateurs donc en charge du bloc 1 pour la situation A et pour la situation B, évidemment, pour être adjoint à un professionnel. Voilà.
Alors, je vais poursuivre avec E4 forme ponctuelle. Donc là, on a une épreuve avec un temps de préparation de 40 minutes pour les candidats et une heure donc, d'épreuve, entretien et simulation. Donc on retrouve, on a la même grille que celle qu'on avait pour le CCF. Les fiches descriptives des situations professionnelles vécues par les jeunes sont identiques. Donc l'épreuve se déroulera en trois étapes. Donc la première étape, d'une durée maximale de 20 minutes, permettra de renseigner donc la partie haute de la grille. Donc la commission choisira donc une activité figurant dans le dossier du candidat. Le candidat exposera, donc, comme l'a souligné tout à l'heure Didier Michel, la notion de verbalisation de son activité. Donc là, on la retrouve dans la certification de la forme ponctuelle également. Donc le candidat disposera d'un temps de 10 minutes pour exposer l'activité choisie par la commission. Et ensuite, donc, il y aura un temps d'entretien, d'échange, de questions-réponses par rapport à l'activité choisie et figurant dans le dossier du candidat. La deuxième étape de cette épreuve, c'est la simulation. Donc là, pendant le temps de préparation de 40 minutes, en amont de l'interrogation, la commission aura établi une fiche sujet, donc qui sera très proche de celle que vous avez actuellement pour l'épreuve 4. Il y aura des modifications de paramètres. L'étudiant, dans ce temps de préparation, les prendra en compte. Et ensuite, donc, les membres de la commission conduiront donc un entretien de simulation. Et ensuite, à la fin de cet entretien, à la fin de la simulation, il y aura donc un questionnement de la part de la commission pour apprécier l'analyse réflexive du candidat par rapport à la simulation dont qu'il vient de conduire avec les membres de la commission. La troisième étape, donc 20 minutes, permettra de renseigner la partie basse de la grille d'évaluation. Elle portera donc sur la compétence exploitation et mutualisation de l'information commerciale. Là, l'ensemble du dossier, donc les deux fiches présentes dans le dossier du candidat, seront mobilisées pour, d'une part, une présentation par le candidat des deux activités, et notamment les démarches, les travaux, les outils et les résultats qu'il a mobilisé pendant ces deux ans de formation. Et là, également, on aura un temps d'échange et de questions avec la commission. Pour cette épreuve, donc, elle se déroulera, on peut l'imaginer, comme cela se déroule actuellement dans vos académies, dans des centres d'examen. Le candidat apportera, c'est ce qui est noté dans le référentiel, si vous l'avez lu, son matériel et toutes les ressources qu'il juge utiles pour être le plus performant possible lors de cette épreuve. Voilà donc pour l'épreuve E4. Avez-vous des questions ?
Si je comprends bien, à la fin de 2 ans, il y aura 2 fiches, de fait. Une sur un entretien de vente, une sur un événement commercial. Mais j'ai cru comprendre que l'évaluation de la situation A se construisait tout au long de la formation. D'accord ? Donc en fait, cette évaluation de la situation A, elle ne se fait, enfin, elle se fait sur les deux activités. Ah oui, elle se fait sur les deux activités professionnelles référencées. D'accord. Ok. Donc c'est plutôt vers la fin de formation quand même.
Plutôt fin de formation. En amont de la situation B.
Ok, ça y est. C'est bon.
Oui.
Par rapport à la forme ponctuelle, cette évaluation en CCF, elle se fait oralement ou par écrit ? Parce que là, sur la forme ponctuelle, on a bien un exposé, un entretien, 20 minutes, et on retrouve ces 20 autres minutes à la fin de l'épreuve. Sur celle en CCF, on a bien la simulation orale, et situation B,
oui.
Mais sur la situation A.
Elle se construit tout au long de la formation, les professeurs, en fait, il n'y a pas de temps, voilà, il n'y a pas de planification.
Mais l'évaluation prend quelle forme ? Écrite ou orale ?
Orale, en fait.
On décide.
Ça peut être les deux.
Les deux,
voilà,
d'accord.
C'est l'équipe pédagogique, au regard de son projet pédagogique. On a des évaluations similaires dans d'autres BTS. Une évaluation qui se construit au regard des situations professionnelles vécues par le jeune, des entretiens de suivi que peut avoir le professeur dans le cadre de la scolarité du jeune. Et l'évaluation, à un moment donné, en effet, les deux professeurs, par exemple, en charge du bloc 1, se réunissent pour déterminer quel est le profil par rapport aux deux parties de la grille relative à la situation A.
On va dire que finalement, c'est sur l'épreuve ponctuelle de dire que, par exemple, ça doit être oral. C'est presque ça l'anomalie en termes d'évaluation. Mais on ne peut pas faire autrement dans une épreuve ponctuelle parce qu'il vient dans un temps très court. La vraie évaluation, c'est presque celle qu'on a définie effectivement sur cette évaluation en continu, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur plein d'indices qui se font pendant la formation, d'observation, je dirais, davantage que de se dire est-ce que c'est de l'écrit ou de l'oral, etc. C'est finalement assister en continu à la montée des acquis au fur et à mesure. Et je crois que l'idée la plus proche, c'est celle d'un bilan de compétences qui peut être fait à un moment donné avec tous les indices que j'ai pu accumuler, que j'ai pu voir, etc. Ben, je suis capable, moi, enseignant parce que j'ai suivi ces acquis dans la formation, de renseigner effectivement ces cases. Donc on est moins sur la forme de l'épreuve quand on est en continu, quand on est en observation en continu, que lorsqu'on est sur une épreuve ponctuelle où il faut décréter une forme de manière... Il y a une réflexion aussi qui a été faite, c'est que pour la simulation... alors vous le savez, on l'a vu ici, en ponctuel, on donne le sujet 40 minutes avant. Et pour le CCF, ça a été dit, on le donne suffisamment tôt à l'avance. Petite imprécision dans le suffisamment tôt. Qu'est-ce que ça veut dire suffisamment tôt ? Donc on en a discuté hier entre nous. Première chose, d'abord, il faudra l'évaluer dans toute sa richesse, l'étudiant. Ça veut dire le truc de lui dire, ben moi je lui donne 40 minutes avant et puis pas plus parce qu'il faut qu'il soit comme les autres, ainsi de suite. Je pense pas que ça soit une bonne chose, de mon point de vue. Ça veut dire que si on lui donne ne serait-ce que quelques jours avant, ben il peut travailler réellement cette situation et on va pouvoir faire une vraie simulation qui va être encore plus riche. Et tant mieux, et il faut pas se priver de ça. Alors, pour qu'il y ait une forme de compromis un peu entre nous tous, on pense que de l'ordre de la semaine avant, c'est jouable. Voilà. On se le dit, c'est un arrangement comme ça. On a mis suffisamment tôt dans le référentiel pour être souple et que finalement chacun d'entre vous puissiez faire un peu ce que vous vouliez. Si c'est 2 jours avant, 3 jours avant, 4 jours, mais on pense qu'un délai d'une semaine c'est bien. Je pense qu'un délai d'un mois, je suis pas sûr que ça apporterait plus. Au contraire, ça mettrait une pression puis il ferait un truc, une thèse de doctorat de 3e cycle. Donc voilà, vous traduirez bien ça. On est entre une semaine et un jour pour lui donner ça.
Alors moi j'ai toujours une question sur le CCF, la situation A. Ça implique de la part de l'enseignant évaluateur une connaissance fine de ce qui s'est passé en entreprise, puisque ça s'appuie essentiellement sur des compétences développées en entreprise, et il ne suivra, suivra pas tous les étudiants d'entreprise. Si on imagine qu'il a une partie du suivi des activités en entreprise, il n'aura pas l'ensemble des étudiants de profs sur des compétences différentes, ou alors il partage l'ensemble des compétences.
C'est précisément ce changement d'alternance qu'on veut. n'y a pas ce qui a été fait en entreprise et puis il y aura des enseignants qui l'auront vu ou pas, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant le suivi de PFMP, c'est si les situations d'entreprise, elles reviennent en formation et qu'elles sont partagées par les enseignants, par tous les enseignants. À partir du moment où il y a un retour de ces situations qui sont consignées quelque part, chaque enseignant va pouvoir regarder ces situations professionnelles. Elles appartiennent à tout le monde. Il n'y a pas de situation d'entreprise qui vont appartenir à un seul enseignant parce qu'il a fait le suivi en entreprise. Ça n'existe plus, si vous voulez, dans ce genre de modèle. Il y a des situations qui ont été saisies en entreprise, certes, par le jeune, et il en a fait des fiches, éventuellement, où il les a saisies dans un passeport. Et après, c'est à partir de ces fiches que les uns et les autres peuvent travailler dessus. La véracité de l'activité. Alors ça, c'est intéressant, votre question. Très intéressante. Vous avez très bien fait de la poser. On se débarrasse de ces histoires de preuves qui nous ont pollués. Vous le savez bien, vous avez plus souffert que nous, même, de ça. C'est-à-dire que quand on interrogeait des étudiants et qu'on se mettait à se transformer en Columbo, et on interrogeait même plus sur les compétences, on était en train de vérifier si c'était vrai ou pas ce qu'ils nous racontaient. En fin de compte, la compétence, vous voyez qu'un jury ou n'importe qui d'autre, même une situation qui est rapportée, qui a peut-être été fabriquée, j'en sais rien, à partir du moment où on la rend complexe, on met de la criticité, qu'on regarde sa réaction par rapport à la variabilité de la situation, eh ben, si il peut traiter cette variabilité, ben, ça nous va. Et je ne suis pas là-dessus. Pardon ? Oui, mais sur la variabilité, elle est observée tout au fur et à mesure de la formation. Ce n'est pas un acte formel comme on a dans l'épreuve ponctuelle.
Alors, on va donc vous présenter l'épreuve E5. Donc, l'épreuve E5 repose donc sur les contenus du bloc 2. Le bloc 2, donc, c'est relations clients à distance et digitalisation. Donc, c'est l'épreuve qui porte sur les contenus et savoirs digitaux introduits. On a cherché, enfin le groupe a essayé de concevoir une épreuve qui soit un peu innovante par rapport aussi à ces nouveaux contenus, ce nouveau positionnement, comme l'ont souligné ce matin les professionnels, sur des attentes fortes. Attentes fortes donc sur des compétences digitales, mais également donc sur des compétences rédactionnelles de la part de nos étudiants. Alors, cette épreuve E5, elle permettra de valider donc les métacompétences, maîtriser la relation client omnicanal, animer la relation client digitale et développer la relation en e-commerce. On a fait le choix donc pour valider l'ensemble des compétences et les critères de performance qu'il conviendra d'apprécier, de scinder donc cette épreuve en deux temps, donc deux parties distinctes. Donc une partie écrite, donc l'actuelle étude de cas de MGAC de 5 heures disparaît en tant que telle. On aura une épreuve écrite de durée plus restreinte, 3 heures. Au niveau de sa structure, elle sera proche de l'étude de cas actuelle, c'est-à-dire un contexte, des travaux à faire. Mais au regard, je me répète, mais des attentions fortes de la profession, on a jugé utile d'introduire une question de réflexion qui entraînera donc une réponse structurée et argumentée de la part du candidat. Et bien entendu, cette réflexion, cette argumentation structurée qu'on exigera, s'inscrira dans le contexte du sujet décrit. La deuxième partie sera une épreuve ponctuelle pratique d'une durée de 40 minutes. Et donc, on va vous la présenter de façon plus détaillée. Quoi qu'il en soit, pour cette épreuve E5, on a fait le choix de mobiliser l'ensemble des contextes des trois métacompétences. C'est-à-dire que, aussi bien pour la partie écrite que pour la partie pratique, on pourra solliciter des contextes relevant de l'ensemble du bloc et du pôle d'activité 2. Alors, au niveau de la partie écrite, il y a une reformulation déjà un petit peu de ce que je viens de vous dire sur la diapositive. Donc, inscription des problématiques à résoudre dans le cadre d'une communication unifiée et ce, donc, dans le contexte réel d'une organisation. Donc là, on est très proche de ce qui est actuellement le scénario suivi pour les sujets de MGAC. Il y aura des propositions d'activités professionnelles. Donc, d'une part, on sera plus sur la partie écrite sur la première méta-compétence, maîtriser la relation client omnicanal. Les travaux pourront mobiliser donc des outils digitaux. Il y aura bien entendu sur cette partie écrite des documents ressources en annexe. Et également, donc, suivant le sujet, suivant le contexte, le candidat sera amené à mobiliser donc, des éléments enseignés donc, en CEJM. Et le deuxième temps de cet écrit d'une durée de 3 heures donc, portera sur une réflexion commerciale, structurée et argumentée. Les copies donc, seront corrigées conjointement par 2 professeurs. Et comme l'a souligné tout à l'heure Didier Michel, on développera donc également pour cet écrit une évaluation par profil. Pour la deuxième partie, la partie pratique de l'épreuve. Donc là, tous les candidats, quelles que soient les modalités de leur formation, quel que soit l'établissement scolaire dans lequel ils suivent leur formation, passeront ces épreuves en forme ponctuelle. Donc pour la partie pratique de l'épreuve, nous mettrons donc à votre disposition, par session, 2 contextes digitaux de référence. Donc comme l'ont présenté ce matin donc les 3 collègues en charge donc, du pilotage des référents digitaux académiques cet après-midi, donc ces contextes digitaux mobiliseront donc soit la solution WordPress, soit PrestaShop, suivant si on est sur un site web ou sur un site de e-commerce. Donc au niveau de l'organisation de cette épreuve pratique, donc l'Académie pilote mettra en place une commission en charge de la production de ces contextes digitaux. Donc il nous en faudra 2 par session, 2 pour la métropole et 2 pour la Nouvelle-Calédonie, donc au final 4. Pour la première session 2020, dans un souci d'accompagner d'une part nos collègues IPR, de vous accompagner également vous en votre qualité de professeur, l'Académie pilote produira une banque de sujets. Donc les 2 contextes digitaux seront livrés avec donc, des sujets candidats. Ces sujets candidats permettront donc aux jeunes hein, de prendre en compte des modifications. Alors, par exemple, ce matin, Patrick Feignel a cité quelques exemples. Hein, ajout de produits, réponse à des sollicitations par blog, gestion d'une foire aux questions, etc. Donc, il y aura des productions digitales à réaliser par le candidat. Donc, l'Académie pilote diffusera en amont de les sessions à toutes les académies ces sujets et ces contextes. Les académies auront à charge de diffuser dans les centres d'examen les contextes digitaux et les sujets candidats. Et au sein des centres d'examen, il conviendra de dupliquer d'une part les contextes digitaux dans les environnements numériques des établissements. Alors, nous allons en 2019, hein, un an avant la session d'examen, nous allons faire un test, hein, on va construire donc un contexte digital. On sollicitera un échantillon d'académie afin donc de tester le déploiement tant du contexte digital dans les centres d'examen que auprès des enseignants pour que en 2020 nous soyons opérationnels pour que tout se passe bien sur cette épreuve. Parce que là aussi, il y a quand même une montée en compétences à faire et il faut que c'est une épreuve qui est assez novatrice et au niveau des divisions des examens et des DSI de nos rectorats, il faut aussi qu'on envisage la mise en œuvre de cette épreuve. Donc, au niveau de la session 2020, donc nous allons, au cours du deuxième semestre, de l'année scolaire 2018-2019, donc faire un appel à sujet pour construire ces contextes digitaux de référence auprès des référents digitaux académiques, donc en charge de l'enseignement du bloc 2. Novembre 2019, donc la commission nationale créera finalisera les contextes par rapport aux productions et concevra donc les sujets candidats. Et ensuite, donc en janvier 2020, donc nous finaliserons les sujets, les contextes et les grilles d'observation. L'année prochaine, donc en début d'année, donc ça sera janvier 2019, donc Didier Michel organisera une réunion à distance pour échanger et avec donc d'une part les collègues IPR, les référents digitaux académiques, les chefs de DEC et les responsables des DSI des rectorats pour préciser toutes les modalités. Et on aura également donc cette session blanche en 2019, ce qui permettra aussi à vous, enseignants du bloc 2, de disposer d'un sujet zéro et de quelques sujets candidats. Donc ça vous donnera une orientation de cette épreuve pratique au niveau de son organisation, de ses attendus et de ses exigences. Alors, également, épreuve innovante, on a aussi pensé à une évaluation dont on a peu l'habitude peut-être en économie et gestion, mais qu'on rencontre dans l'hôtellerie-restauration et notamment au niveau des services. Donc nous avons envisagé donc d'organiser cette épreuve pratique selon les modalités suivantes. Donc il y aurait un examinateur qui observerait la pratique de trois candidats. Donc en fait, on aurait trois candidats par heure qui composeraient sur le même sujet. Et le professeur, donc l'examinateur, observerait à l'aide d'une grille jointe avec le sujet candidat la pratique sur poste du jeune et pourrait, en fonction des productions réalisées, l'interroger, lui poser des questions pour expliciter sa démarche.
Cela signifie que pour chaque sujet, il y a une grille d'évaluation, on n'aura pas une grille d'évaluation
non.
Pérenne.
Voilà, ça sera une grille d'observation qui sera en effet liée à la production digitale attendue avec le sujet. Voilà, donc on a commencé. Alors là, les documents qu'on vous a vidéo-projetés, ils sont en cours de validation, c'est des documents de travail. Dès qu'ils seront finalisés, donc nous vous les adresserons selon les modalités habituelles. Mais pour l'instant, voilà, ce sont des projets de grilles et de fiches. Voilà, donc là, on a repéré donc les critères de performance à évaluer par l'examinateur lors de l'observation.
Donc on va aborder la dernière partie de la certification, donc avec l'épreuve 6. Donc bon, là je passe assez vite sur le pôle d'activité concerné. Donc là on est vraiment dans l'immersion dans les réseaux, donc trois types de réseaux, la grande distribution, les partenaires et la vente directe, avec encore une fois la déclinaison, je passe des compétences et critères de performance. Alors le dossier support de l'évaluation, donc ici l'épreuve portera sur trois expériences réseau, c'est-à-dire qu'on impose aux candidats de s'immerger dans trois réseaux, mais pas forcément de façon réelle. D'accord ? Donc on est sur de l'observer, du vécu potentiellement. Il y en a une forcément, on va y venir tout à l'heure, qui doit être vécue, mais pour les autres, elles peuvent être observées, témoignées, simulées, de façon à pas contraindre et à pas limiter la possibilité justement de s'immerger dans cette culture réseau. Donc les trois réseaux, vous retrouvez donc trois fiches, puisqu'il y aura trois fiches descriptives d'activités professionnelles, donc une pour le réseau de distribution, l'autre pour les partenaires, et la troisième pour la vente directe. Dont une des trois en réel. D'accord. Et à côté donc de ces trois expériences, de ces trois fiches descriptives, donc des expériences en réseau, une étude réflexive. Alors, L'étude réflexive, là c'est un peu, je pense, la nouveauté. L'étude réflexive, ça va être un travail qui sans doute arrivera plutôt à la fin justement des trois expériences réseau et qui va finalement consister à trouver, le candidat va devoir, à partir de ces trois expériences, trouver une thématique, un fil conducteur qui lie finalement ces expériences et en faire donc une étude qui tiendra donc sur ce document, donc ça fait deux pages, enfin un recto un verso, et qu'il devra présenter sous forme de réflexion structurée. D'accord. L'idée, c'est justement de lui permettre de prendre un peu de recul. C'est pour ça que c'est quelque chose qui a priori arrivera à la fin de la formation, et de justement d'essayer de montrer qu'il a compris ce qu'était la culture réseau, qu'il a été capable de la prendre en compte, de s'immerger dedans et d'en comprendre les ressorts. Cette étude réflexive mobilisera sans doute des éléments justement de CEJM appliqués, comme tout à l'heure en parlait Jean-Christophe. Alors là, donc, on revient sur la fiche, les fiches descriptives des trois expériences, les fiches descriptives d'activité. Donc, comme tout à l'heure, des modèles. On s'est trompé. Bon, alors ça c'est l'AE4, mais bon, on vous mettra pour ce qu'on va déposer, on vous mettra la bonne. Cela dit, les commentaires qu'on a mis sur le côté sont à mon avis les bons. Donc dedans, vous trouverez la mention du type de réseau, le cadre de l'activité du réseau, les méthodologies, voilà, tout ce qui va être animation, méthodologie, justement. Mais attention, bien ciblé dans l'expérience réseau. Donc ça c'est ouais. Voilà, le verso est bon, mais c'est juste le recto effectivement qui n'est pas bon. Trois fiches descriptives au moins, hein. Il pourrait y en avoir plus, mais trois pour le dossier et l'étude réflexive. Alors pour l'épreuve, donc comme tout à l'heure, deux situations. À la différence de tout à l'heure, donc la première situation, enfin la situation A, c'est le candidat donc qui va choisir. Enfin, ça dépend combien il a d'expérience réelle, mais en tous les cas, s'il a eu plusieurs expériences réelles en réseau, il choisit celle qu'il souhaite vous présenter. D'accord. Donc pendant 15 minutes, il vous présente cette expérience, avec 10 minutes pardon où il présente, et puis 5 minutes d'entretien avec la commission. D'accord. Donc là, sur une expérience réelle. D'accord. Donc s'il en a plusieurs, il l'a choisi. La situation B, c'est finalement le moment où il va vous parler de ses autres expériences réseau, donc des deux autres qu'il n'a pas abordées avec vous, enfin qu'il ne vous avait pas présentées. Donc 20 minutes où il présente ses expériences avec un temps d'échange, donc de réponse à des approfondissements que vous pourriez, enfin que la commission d'évaluation pourrait demander, et puis 5 minutes sur l'étude réflexive. Donc, là, on vous représente la grille de compétences, la grille d'aide à l'évaluation, donc avec les trois expériences réseau que vous retrouvez, et puis toujours la même logique de profil et des compétences qui sont liées donc aux critères de performance. Donc là, on vous a mis un exemple. Hein, donc là aussi, c'est un exemple. On imagine un candidat qui a son expérience réelle en réseau. C'est la distribution. Donc dans ce cas-là, effectivement, la situation A va correspondre au premier pavé donc, de la grille. D'accord. Et puis donc pour les pavés 2 et 3, vous allez être sur la situation B. Donc ce sont les deux autres expériences dans les deux autres réseaux, hein, les partenaires et la vente directe. Et autour, vous avez effectivement l'étude réflexive, puisque si vous regardez la grille, il n'y a pas d'item, enfin, il n'y a rien précisément qui mentionne cette étude réflexive, mais comme on vous l'a dit, elle irrigue finalement toutes les expériences réseau. Hein, donc on la retrouve dans les trois pavés, et c'est celle qui va nous permettre aussi de faire évoluer le curseur dans l'évaluation par profil du candidat.
Alors, pour l'épreuve ponctuelle, donc on a une épreuve ponctuelle de 40 minutes. Là, on n'a pas de temps de préparation. Cette épreuve donc se déroulera en deux temps. Donc les premières 15 minutes Donc le candidat exposera une fiche, la fiche relative à l'expérience réseau vécue réellement. Et ensuite, donc, après ces 10 minutes d'exposé, donc, la commission l'interrogera sur cette expérience réseau vécue. Dans un deuxième temps, donc, 25 minutes, donc, exposé et entretien sur les autres expériences réseau vécues par le jeune, avec la partie relative à l'étude réflexive. Donc, on a là aussi les mêmes fiches, la même grille d'évaluation qui sont communes donc, pour le CCF et pour la forme ponctuelle.
Pour la fiche 4, les deux sont réels, observés, voilà, ou simulés.
Voilà. Il n'y a pas simulé.
Il n'y a pas simulé.
D'accord. Merci de la précision. Et dernière chose, pour les fiches du passeport professionnel, est-ce qu'on aura l'occasion d'utiliser des logiciels comme Cerise Pro qui sont éventuellement utilisés en BTS Bank?
Excellente question.
Merci de le souligner. Je sais
pas à qui je le rends. Alors, il y a eu également une excellente remarque. On a fait quelque chose sur le passeport pro. Et effectivement, le terme de passeport professionnel ne figure pas dans le référentiel. Ça s'explique à la fois pour des raisons exogènes. Il se trouve que les passeports professionnels ont eu plutôt beaucoup de réussite. Effectivement, elles se sont propagées dans beaucoup de diplômes professionnels. Mais parce que il y a des interlocuteurs nationaux, on appelle ça des OS. Certaines OS ne veulent plus entendre parler de passeports professionnels. Donc c'est simplement pour des raisons un peu diplomatiques que l'on n'écrit plus passeport professionnel en tant que tel. Par contre, le fond, si vous voulez, qu'on les appelle folio, qu'on les appelle certains livrets de professionnalisation, passeport professionnel, etc., peu importe les appellations qu'on peut avoir derrière, c'est le même principe, c'est-à-dire de garder des traces d'activités, de pouvoir décrire ces activités, de pouvoir revenir dessus. Et éventuellement, et ça c'est logique de formation, et c'est aussi pourquoi dans un référentiel de certification, c'est plutôt pas mal qu'on ne parle pas de passeport professionnel et qu'on fixe, nous, le passeport professionnel comme d'abord et avant tout de la formation. C'est un objet d'abord et avant tout de formation. Ça doit vous servir à la formation, ça doit servir à la réflexivité, ça doit servir à la conceptualisation, et puis tant mieux, et c'est ce qu'on est en train de dire ici, que le passeport professionnel va pouvoir servir, produire des supports de certification, c'est ce qu'on a appelé les fiches. Mais on voit bien qu'avec cette notion de passeport, ce qui nous intéresse avant tout, c'est la formation, et on sort des choses de ce passeport, on appelle ça des fiches, pour servir, pour légitimer la certification. C'est vrai que quand on avait parlé de passeport professionnel dans nos référentiels de certification, finalement, on a été pris à notre propre piège. C'est que des enseignants ont dit que le passeport, c'est la certification. Et il faut que tu mettes des fiches si tu veux être bien évalué, si tu veux avoir ton BTS, si tu veux avoir ton bac, etc. Et de fixer les passeports professionnels par rapport à la certification, c'est le piège numéro un des passeports professionnels. Donc, mémorisez bien que fondamentalement c'est de la formation et encore de la formation que de collecter ces traces d'activité dans un folio passeport professionnel, et ça peut, et tant mieux, ça nous sert pour la certification, pour extraire des situations intéressantes et puis faire une impression de fiche. Par rapport à votre question d'application, c'est une question effectivement que j'ai posée. Alors on ne donne pas d'application, on ne fixe pas d'application pour les uns et les autres. Il y a plein de logiciels qui permettent de faire ça. Il y a Sacoche, il y a plein de choses comme ça. Même dans les intranets d'établissements, j'ai vu des gens qui faisaient avec des applications Folio qui faisaient l'équivalent. Bon, tant mieux. C'est vrai que l'intérêt de Cerise Pro, comme vous le dites, c'est-à-dire une application qui est développée par Canopée, hein, Canopée Poitiers, c'est qu'on a pu leur dire, bah, tenez, voilà le référentiel de tel diplôme, et ils nous construisent, ils nous personnalisent, ils nous customisent l'application par rapport au référentiel. Ce qui fait que des jeunes, quand ils saisissent des choses là-dedans, ben, ils ont des listes déroulantes avec ben, les compétences, les nôtres, les situations qui sont déjà référencées, et donc c'est un peu plus pratique. Donc ce que je pense faire, et on en a discuté hier, on va lancer, on va demander à Canopée de customiser quelque chose pour le BTS NDRC. Hein, d'accord ? Mais ça va nous prendre peut-être un peu de temps, même si le développement va beaucoup plus vite maintenant. En général, ça se passe comme ça. Je vais les solliciter. On va prendre deux ou trois sections test, c'est-à-dire des enseignants qui vont être connectés aux développeurs, qui vont leur dire « Est-ce que ça vous va le produit ?» Si l'enseignant dit « Non, ça c'est trop compliqué, changer les choses, etc. » Donc, c'est toujours la même chose. On va travailler comme ça. Et ça, je pense qu'on peut travailler sous 3 à 4 mois. Voilà. Vous ne l'aurez peut-être pas pour septembre, la chose customisée, mais en tout cas, on l'aura, je pense, à partir de début 2019 de sûr, quoi. Ça, c'est certain. Le coût de cette application, c'est de l'ordre de, je crois que c'est 100 € pour une section par an. 120 € par an pour une section complète, parce que là encore, c'est de l'héberger. Les passeports, ils sont sur des hébergeurs, hein, ils ne sont pas dans les établissements. Et donc, on va quand même lancer une application type cerise pour NDRC, à charge pour vous de la prendre ou pas, ou de faire autre chose. Mais en attendant, c'est vrai que ça va être un peu lourd, mais des étudiants qui ont envie de saisir leur situation, ben, en remplissant déjà les modèles de fiches, un modèle de fiche sous Word, ça a le même fonctionnement cognitif. Hein. Ça a le même fonctionnement cognitif que d'avoir l'application pour ça. L'intérêt de l'application, il y a un module de pilotage pédagogique, c'est-à-dire que pour l'enseignant, il peut voir sur sa classe les situations qui ont été traversées par les étudiants ou pas. Donc ça sert un petit peu pour le pilotage des stages à faire pour après, en disant, il y a toutes ces situations du bloc machin que tu n'as pas faites, donc, etc. Donc on peut un peu piloter un peu plus de manière un peu plus fine pédagogiquement les choses. Oui. Alors, expérience réseau qui n'est pas vécue. Oui. Alors, d'abord, vous avez compris que on n'a pas voulu nous prescrire dans l'épreuve que tous les jeunes de France et de Navarre allaient traverser les trois réseaux en réel. On n'a pas voulu se mettre dedans. Donc, on s'est ramené au moins à une expérience dans ces trois types de réseaux. Voilà. Mais ceci étant, vous aurez peut-être des étudiants qui vont traverser les trois de manière réelle. Hein. Et auquel cas, il ne faudra pas leur dire « Oh là là, c'est pas bon », etc. Donc, eux, ils auront leur support qui va être fait. Des réseaux non vécus, ce sont des réseaux, c'est nos termes à nous, mais un peu didactisés. C'est-à-dire qu'un élève qui, par exemple, a fait s'est immergé dans un réseau de vente directe. Et là, il a plongé dedans. Sur un réseau de grande distribution, il va travailler tout un ensemble de documentation. Il va aller interroger des gens de la grande distribution. Il va faire un ensemble d'enquêtes, il va faire tout un ensemble d'activités qui vont pouvoir lui dire, finalement, sur ce réseau, je peux dire un ensemble de choses. Peut-être que ça fera intellectuel, mais quand même, il y a tout plein de méthodes de documentation, d'entretien, de témoignages aussi qui vont être intéressantes, voire de simulations, peut-être en direct. Il pourra très bien passer une journée dans la grande distribution, quand ils vont rencontrer un acheteur, puis regarder ça, etc., etc., etc. Donc c'est tout un ensemble comme ça de documentation, de pratiques documentaires sur l'analyse d'un réseau qui vont le légitimer pour produire une fiche sur le réseau. C'est une étude réseau, finalement, qu'il va mettre en place. Hein ? Sur la certification, vous avez bien compris que autant il y a une pratique de certification que vous connaissez bien, c'est celle du paramétrage. E4, ça vous a appris à faire ça. Là, on a deux autres pratiques de certification qui apparaissent. Il y a une pratique de cette certification en continu, qu'on ne connaît pas encore, qui est de dire, et le principe il est le suivant, celui qui a mieux le même d'évaluer l'élève, l'étudiant, c'est celui qui le connaît le mieux, c'est l'enseignant qui le regarde progresser pendant ces deux années. Et à la fin, cet enseignant qui a regardé cet étudiant progresser, etc., il est capable d'aller remplir une grille d'évaluation et de certifier. Ça, c'est le principe fondamental du continu. Pour l'épreuve, mais c'est l'aspect formel des épreuves. Donc ça, c'est le principe. Hein. Ça veut dire que les étudiants, vous allez les observer tout au continu comme ça, et après, vous allez remplir la grille qui est dessus. Pour l'épreuve, on a un caractère qui nous reste, qui est un peu formel. Et vous le savez, même en CCF, chaque étudiant, bah, vous devez faire un petit dossier d'évaluation pour cet étudiant, dans lequel il y a ses grilles. Et dans ce dossier d'évaluation, bah, on doit mettre ce qui est censé avoir été aussi le support de sa certification et de son évaluation, d'où ces deux fiches qu'il faut sortir. Mais ces fiches sont des fiches support d'évaluation. Il ne faut pas concentrer votre évaluation certificative en disant « c'est sur cette fiche et pas autre chose ». D'accord ? C'est parce que dans le dossier de certification CCF du jeune, oui, il faudra mettre ses grilles et il faudra mettre quand même ses fiches support et le dossier sera bouclé d'un point de vue formel. Alors bien évidemment, vous allez l'observer évidemment aussi sur ces deux fiches, mais il y aura toutes les autres situations sur lesquelles vous allez observer. Donc c'est la petite notion de fiche support d'épreuve ou de fiche vraiment qui sert à l'évaluation. D'accord ? Donc évaluation en continu, c'est tous les indices que vous avez pris sur beaucoup de situations professionnelles. L'intérêt pour le jeune, c'est quand même, et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qu'on a observé sur d'autres BTS, c'est qu'est-ce qui va conditionner son choix de sortir ces deux fiches-là. Ça, c'est intéressant, c'est une phase pédagogique extrêmement intéressante de dire pourquoi tu sors celle-là et pas celle-là, etc. Là, il y a tout un travail à faire qui est plutôt intéressant là-dessus. Mais donc, voilà, c'est ça un peu qu'il faut travailler. La deuxième posture d'évaluation qu'il faut apprendre, c'est celle de jury d'épreuve pratique. C'est-à-dire que ce sont des jurys passifs, apparemment passifs, observateurs. C'est-à-dire qu'en priorité, ils observent ce qui se passe et ils complètent des indices d'observation. D'accord ? Ça, c'est la priorité. De temps en temps, ils peuvent intervenir auprès du candidat quand soit il est perdu, donc on peut relancer, évidemment, hein, dans ce genre d'épreuve pratique. Ou on peut demander, quand on ne comprend pas et que vraiment le sac à dos était vide et que c'est parti ailleurs, on peut dire, mais qu'est-ce que vous avez voulu faire à ce moment-là? C'est-à-dire, il n'y a pas non plus une interdiction de ne pas venir, de pas intervenir. Hein. Mais en tout cas, ça sera marginal. Hein. Le principe, c'est d'être absent, enfin muet, derrière, d'observer ce qui se passe, et soit pour déclencher, pour relancer le candidat, soit pour demander quelques indications dessus, ben, on intervient. Mais surtout pas venir en plein milieu de la pratique, arrêter la pratique et interroger. D'accord ? C'est vrai que l'exemple des professeurs de service, quand on est dans des restaurants d'application, vous êtes peut-être arrivé avec des candidats, ils sont derrière, ils observent, ils passent d'une table à l'autre, ils regardent les candidats, ils ont des grilles, ils observent, etc. Mais ils interviennent de temps en temps, quand ils nous renversent tout sur la... Voilà, pour faire ça. Je crois que c'est le meilleur modèle qui est là-dessus. Sur l'étude réflexive... quand je vous ai parlé tout à l'heure de conceptualisation, quand on conceptualise une situation professionnelle, vous avez vu que la traduction chez nous, c'était la fiche, le support. Parce que dans la fiche, je vais raconter des choses sur ma situation professionnelle. En fait, je vais raconter la manière que j'ai de la conceptualiser. L'étude réflexive, ça conceptualise une expérience. C'est-à-dire, pas simplement une situation, mais... tout un ensemble de choses, d'expériences réseau, c'est sur les trois réseaux, comment je conceptualise, non pas situation par situation, mais un ensemble de choses qui s'est passé, donc c'est la conceptualisation de l'expérience. Et l'étude réflexive, c'est ça qui est intéressant, c'est un autre document de formalisation d'une conceptualisation, mais d'un ensemble plus vaste, qu'on appelle l'expérience. Bon, ça c'est peut-être un peu pas assez opérationnel ou pas assez concret, comme on peut dire là-dessus. Je suis presque sur la... Oui ? Sur les trois réseaux, voilà, on est sur une globalité d'expérience sur les trois réseaux et j'essaie de la conceptualiser à travers un thème hein, qui est demandé, un fil rouge que je vais travailler. Une petite remarque, il ne vous a pas échappé pour ceux qui interviennent en première et terminale, qu'il y a quand même une inspiration STMG dans la forme des épreuves. Quand on dit qu'il y a tout un ensemble de choses à faire et qu'il y a une question à la fin de ça... c'est parce que ce sont des aspects cognitifs et des aspects certificatifs extrêmement intéressants qui sont aussi intéressants pour nous. Et donc, on s'inspire aussi de ça pour dire on est capable, dans une étude de cas écrite, etc., de répondre à des questions, mais on est aussi capable de répondre à une question plus générique et plus générale. Ce qui est intéressant sur les situations réseau, les fiches réseau, c'est qu'on voit bien que il peut y avoir des situations réseau des fiches réseau qui vont nourrir également des fiches bloc 1. C'est-à-dire qu'il y a des situations professionnelles que j'ai menées dans un réseau. Certes, ça m'apprend et je conceptualise ça du côté du réseau et j'en fais une fiche réseau. Mais je peux aussi conceptualiser ça avec l'angle bloc 1, c'est-à-dire cœur de métier, négociation, etc. Et auquel cas, la même situation professionnelle en tant que telle, c'est la même situation professionnelle, mais elle est conceptualisée de manière différente. Soit dans une orientation réseau, et je ne vais pas raconter la même chose, et je ne vais pas la décrire de la même manière quand je suis en conceptualisation réseau, que si j'étais en conceptualisation bloc 1 ou bloc 2. Et donc, vous avez des situations professionnelles qui peuvent nourrir les conceptualisations dans les différents blocs. D'accord ? Il ne va pas y avoir des choses, ah ben non, là, tu n'as fait que du réseau, et puis là, tu n'as fait que du bloc 1, etc. Hein, la réalité, en tout cas, des expériences professionnelles, ça va être ça. Dernier point, donc sur les passeports, on y est revenu. Je vous fais profiter des dangers des passeports. Vaut mieux tirer l'expérience de tout ce qu'on a vu avant. Ce qu'on vous a présenté, là, avec finalement les enjeux, les ambitions qu'il y a derrière le passeport, vous voyez, j'ai lancé ça sur le BTS Communication. On commence à voir seulement maintenant, pourtant c'était du 2008, on commence à voir seulement maintenant des sections qui ont bien compris la pédagogie du passeport et la didactique du passeport. Pourquoi ? Parce que les premiers dangers, un, c'est d'être la situation, tu la racontes, mais c'est pour moi, prof, que tu dois la raconter. C'est pas pour toi. Donc, je veux que ça soit bien écrit, je veux pas qu'il y ait de faute. L'étudiant, il va me dire, écoutez, j'ai fait une fiche, j'aimerais que vous la corrigiez. Bref, si on commence à se mettre dans cette logique-là, de corriger, de vouloir quelque chose de parfait dans la fiche, dans la conceptualisation, un, vous allez mourir. Parce que ils vont se dire, je fais une fiche même pas pour moi, c'est pas mon journal intime, mais je le fais parce que le prof me le demande. Et là, c'est fini d'entrée. Donc, quand vous allez le présenter d'entrée, dites-leur bien, mais c'est pour vous. Si vous avez trois actions dans votre passeport, ça sera pas mon problème, ça sera le vôtre. C'est que vous avez gardé aucune trace de vos expériences professionnelles, et c'est vous, dans votre journal intime, qui allez être les premiers pénalisés. Donc, on ne prends pas le passeport comme un instrument aussi de régulation de la classe. J'ai vu des enseignants qui faisaient un cours ou faisaient quelque chose, derrière, au lieu de faire une synthèse, ils disaient « hop, tu fais ta fiche passeport ». Ne faites surtout pas ça, parce que ça veut dire que le passeport devient quelque chose d'obligatoire pour l'étudiant, etc. etc. Autre écueil, c'est que le passeport, et en particulier peut-être avec les applications, parce que c'est des cases, c'est des listes déroulantes, etc., ça peut apparaître pour l'étudiant comme un formulaire à remplir. Oui. Et je coche, et je fais, et je coche, etc. Et la conceptualisation, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois vraiment raconter sur ma situation, c'est-à-dire le cœur de nos fiches, là, ces espèces de cases blanches là, qui est au milieu, c'est le cœur, plus que les indicateurs qui est en haut, eh bien, on le masque, et puis là, l'étudiant, quand il a rempli 2-3 formulaires, au bout d'un moment, il en a marre. Et il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est les expériences digitales, c'est tout ça. Puis le passeport, c'est pénible. Je fais de l'administratif, comme ils disent certains. C'est-à-dire que le travail de réflexivité, il ne se fait pas. C'est coupé. Donc, ne pas présenter le passeport comme des fiches obligatoires, etc. Et puis s'intéresser vraiment à ce qui est raconté au milieu. Autre erreur qu'on a faite dans certains cas, c'est leur dire, ton passeport, c'est obligatoire parce que y aura des fiches et puis il y aura la certification. C'est-à-dire de figer le passeport par rapport à la certification. Là aussi, c'est la fin de tout et vous allez vous mettre dans des choses qui sont pénibles derrière. Voilà. Oui.
Passeport, un étudiant pourrait mettre une fiche sur son travail salarié du week-end, qui fait avec la tour, par exemple. On est bien d'accord, nous, ça va peut-être nous aider à juger de ses compétences, l'évolution de ses compétences, mais en aucun cas, il ne pourra choisir cette fiche pour la certification.
Alors, tout dépend de cette situation. Hein. Parce que, encore une fois, vous avez raison en posant la question de savoir si on peut mettre des situations informelles qui appartiennent à l'étudiant dans le passeport. Oui, dans son journal intime, il a droit de faire figurer ce qu'il veut. D'accord ? Ce qui est intéressant par rapport à nous, c'est que ces situations professionnelles, nous, enseignants, on va les réinvestir en formation. Alors, s'il met qu'il est allé à un tournoi d'échecs... Bon, ok, il l'a mis dans son passeport, mais moi, je ne vais pas le réinvestir en formation. Ça veut dire que cette fiche ne donne pas lieu à production d'acquis, puisqu'il n'y a pas de réinvestissement, puisqu'il n'y a pas le schéma de compétences que j'avais là derrière. Donc les enseignants, ils veulent bien travailler sur la matière première des situations, mais quand elles sont dans le cadre global du BTS. Pour autant, un jeune qui est dans son club, son association culturelle, et il est obligé d'aller rechercher des sponsors, il fait des journées portes ouvertes à des événements commerciaux pour attirer des sponsors là-dessus. Moi, je suis enseignant, je regarde ça, il y a plein de choses intéressantes qui se font là-dessus. Certes, c'est pas en PFMP, certes, c'est pas là-dessus, mais je prends, et j'investis, et on peut très bien avoir une fiche support d'évaluation en tant que telle qui peut sortir de là. C'est à vous, si vous voulez, dans l'expertise. Alors là, il y a de l'accompagnement, on a dit que c'était de l'accompagnement aussi derrière. C'est à vous de travailler ça, et peut-être de lui dire, mais écoute, cette fiche me semble très intéressante, continue de la conceptualiser. On peut retravailler ça, même en atelier de professionnalisation, de manière encore beaucoup plus forte. Etc., etc. Donc oui, on intègre les expériences informelles dans ce BTS NDRC, y compris jusqu'à la certification. Oui.
Excuse-moi, je trouve de revenir très final, parce que j'ai un peu de mal à comprendre en fait la différence entre d'abord le mot animation dans le réseau, alors pourtant, s'insérer dans le réseau, plonger dans le réseau, je le comprends. Animer le réseau, ça, pour moi, c'est un peu autre chose. Pardon, du coup, voilà, je l'avais tout à l'heure, mais je ne l'ai plus maintenant. Et deuxième point, bon, réseau de distributeurs, on comprend bien. Réseau de vente directe aussi. Qu'est-ce qu'on entend exactement par réseau de partenaires? Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Parce que
c'est tous les autres.
Tous les... Alors, est-ce qu'on parle de canaux de distribution ou de... Parce que j'ai un peu de mal, vraiment. Alors,
non, mais quand je vous dis tous les autres, c'est presque vrai. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien les premiers, enfin, on voit bien oui, distributeurs et vente directe. Tous les autres, ce sont des réseaux qui sont liés par des partenariats. Ces partenariats, par exemple, ça peut être un réseau de franchise. Il y a des contrats de partenariat, des contrats de franchise qui s'établissent. Donc, à partir du moment où il y a un siège social, un franchiseur, des franchisés, et que j'évolue dans ces réseaux de franchise, eh ben, je suis dans ces réseaux dits de partenaires. Hein ? Donc, à chaque fois, si vous voulez, où il y a des contrats, où il y a des, oui, il y a des contrats de partenariat qui s'établissent. Bien sûr, il y a le système bancaire, les réseaux de banques avec les agences, ouais, etc.
Est-ce que ça, bien sûr,
parce que, okay. Un, c'est ni dans le premier ni dans le dernier. Et pourtant, il y a bien, c'est bien un réseau. Et on a bien des méthodologies de réseau qui se font entre les sièges, entre les agences, etc. Donc, on est dans des réseaux. Les réseaux immobiliers, c'est des réseaux qui apparaissent. Que les gens soient d'ailleurs en agent ou que les gens soient en franchisien ou en courtier, etc., on est quand même dans des réseaux. Donc, la forme des partenaires, vous avez raison de poser la question, oui, c'est la forme la plus ouverte. Okay. Et j'allais presque dire, ça va même être très rare qu'ils ne travaillent pas en réseau, oui. Au moins dans un réseau de partenaires, de certes, de ça. Sauf peut-être avec le petit artisan.
Je voulais revenir du coup sur ma question de tout à l'heure sur la loi Cherpion. Sur les ateliers pro, on a parlé du fait que l'on pouvait aussi être sur des actions externes, et en particulier parce que, comme vous l'avez dit, ils ne seront pas dans les trois réseaux sur leur terrain de stage. Donc si on veut maximiser, même si j'ai compris que ce n'est plus un objectif en soi, mais si on veut maximiser les situations vécues, ce qui me semble quand même, moi, qui fait beaucoup d'alternance, ce que j'aime bien, voilà, bon, très clairement, hein, je préférerais ça. Si on veut les maximiser, on va peut-être être amené à les amener à faire des choses à l'extérieur pour d'autres partenaires que l'entreprise dans laquelle ils sont. Est-ce que pour ça, il y aura un cadre juridique? Est-ce qu'on est obligé de le compter comme des stages ou pas? Parce qu'on est très contraint par ces 8 semaines. Est-ce qu'on pourrait être couvert par autre chose qui nous ferait sortir du cadre des 8 semaines par an? Parce que du coup, bah, ça permettrait d'une souplesse, je pense, pédagogique pour tout le monde.
Alors, où il y avait une différence, mais c'est peut-être il y a longtemps, mais quand on avait, parce que de mon temps, on avait déjà eu à traiter ça, quand ils font une mission qui est sur l'emploi du temps, d'une certaine manière, voilà. Ça dépend de la responsabilité de l'établissement.
Donc on peut faire
c'est une convention entre un établissement et puis un lieu, effectivement, là-dessus, qui se fait là-dessus. Donc ça ne relève pas directement de ce qu'on appelle les conventions de stage.
D'accord.
Où là, il y a une délégation et il y a respect d'un règlement intérieur, etc., etc., qui peut y avoir derrière. Oui.
Juste d'intervenir parce que
oui.
Nous avons perdu
un étudiant qui
était le premier jour de son stage, donc on est confronté à cette réalité-là. Et je voudrais savoir si la convention justement établissement dans le cadre d'action ponctuelle qui n'est pas le stage, est-ce qu'elle est belge, est-ce qu'elle couvre bien
Oui, et de mon temps, L'établissement prenait même dans la police d'assurance, il y avait des dispositifs d'assurance qui prévoyaient ça. Tant que c'est sur le temps scolaire, l'emploi du temps scolaire, etc., eh bien, c'était couvert par les polices d'assurance des établissements scolaires. Il y avait des dispositifs comme ça. Le stage, c'est encore autre chose, mais en tout cas, quand c'est des actions sur temps scolaire qui se font comme ça, c'est pris en charge complètement par l'établissement d'assurance. Oui, bien sûr, bien sûr.
Excusez-moi, j'ai une question qui concerne le bloc 1 plus particulièrement et le lien entre le bloc 1, la partie des activités et la certification. À savoir, je voudrais savoir si l'activité fidélisation client peut également s'inscrire dans la certification prévue dans la situation A ou pas. Non, je précise peut-être parce que quand effectivement on s'intéresse à la certification, alors moi je prends plutôt comme vous l'avez expliqué effectivement la cohérence activité compétence et certification. Donc quand je regarde l'activité, je peux effectivement voir que je suis dans une situation commerciale de fidélisation. Or quand je regarde la certification, je vois apparaître une métacompétence qui est celle de la prospection, auquel cas je suis sur une situation de prospection. Donc je voulais simplement éclairer cette spécificité-là, si c'est le cas.
Il y a la métacompétence créer une relation durable. Vous l'avez vu, enfin, la partie 2.
Oui, oui.
Il me semble qu'on est pas mal, là, non ?
On n'est pas dans ce cas-là, dans la situation A. Alors, je ne sais pas si d'autres l'ont remarqué, mais...
Vous me le notez ?
D'accord, je vous le noterai, merci.
On va conclure très rapidement. Si vous avez des messages quand même en formation, premier message, il est interdit d'interdire. D'accord. On prescrit la prescription. Ça veut dire que on ouvre les fenêtres, on décloisonne, on s'enlève ces mécaniques un peu figées qu'on avait. Le national n'est pas là pour vous dire c'est comme ça et pas autrement. Y compris sur des grilles qui vous ont été proposées. C'est des modèles de réflexion que les collègues avaient construits comme ça, mais que d'autres peuvent construire autrement. Il y a quelques enseignements qui sont possibles. Tiens, c'est intéressant peut-être de dire que finalement, on peut mettre un 3,75 d'heures dans un VS pour dire que finalement, il y aura 0,25 à un prof de culture G qui interviendra sur une partie. C'est technique, mais c'est peut-être intéressant de se le dire. C'est peut-être intéressant de se dire, tiens, dans leur programmation de PFMP, il y a eu des trucs qui ressemblaient un peu à de l'alternance. C'est possible de le faire. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, il est interdit d'interdire là-dessus. Et on ouvre les fenêtres sur les secteurs, sur les démarches, sur tout ça. Deuxième chose, on respecte fondamentalement les situations professionnelles que des jeunes ont traversées, qui ont été témoignés, qui ont été observés, qui ont été simulés. C'est le matériau le plus noble qu'on ait, à la fois en formation et aussi pour la certification derrière. Ça, c'est fondamental. Trois, évidemment, la digitalisation, mais derrière la digitalisation, on avait peut-être la peur de se dire que c'est comme quand l'informatique est arrivée. C'est-à-dire que de l'informatique, c'est compliqué. Il faut rentrer dans les fonctions des logiciels et des tas de choses comme ça. La digitalisation, il y a des outils qui peuvent être extrêmement accessibles et très très vite accessibles. Ce qu'il va nous falloir, nous, c'est de l'inventivité, de la créativité pour créer des interactions entre les uns et les autres. Des clients mécontents qui écrivent, je suis obligé de leur répondre, des blogs à envoyer, enfin des blogs à mettre à jour, etc. C'est plus en termes d'inventivité, de créativité, de scénario qu'il va falloir travailler. Le dernier point... C'est tout ce qui a été dit. Oui, on ne peut pas faire, vous l'avez compris peut-être, sans croiser des services, sans travailler en collectif, sans se mettre autour de la table, même si on ne s'aime pas beaucoup. Mais il faudra se mettre autour de la table parce qu'on y gagnera tous dans les 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 30 ans pour certains d'entre vous, qu'on aura à travailler sur ce diplôme. Donc, c'est du temps gagné pour la suite. On a un peu esquivé, on en a parlé, pour chaque établissement, s'il pouvait se dire à travers NDRC, ce que j'attends, en tout cas de l'équipe qui est là, c'est de construire un projet de formation. Et ce projet de formation, c'est tout un ensemble de choix, bien sûr d'organisation, comment est notre alternance, etc. Mais c'est aussi inclure dedans des projets dans lesquels vous allez inclure votre section. S'il y a des voyages à l'étranger, s'il y a des périodes de mobilité, s'il y a plein de choses comme ça, s'il y a des coopérations et des partenariats culturels, ou des tas de choses comme ça qui viennent nourrir la NDRC, mettez ça dans votre projet de formation, parce que ce projet de formation, ça va être votre patte, ça va être votre image de marque qui doit être vendue aussi aux familles et lors de l'orientation. Il faut arrêter d'aller dans des forums d'orientation où on projette uniquement finalement le résumé du référentiel. Il y a à côté, nous, dans mon établissement, voilà ce qu'on a choisi de faire. Voilà ce qui se prépare pour chaque jeune qui viendra nous rejoindre. Il y aura des périodes de choses comme ça à l'étranger. Il y aura des voyages, il y aura des séminaires, il y aura des intervenants professionnels de telle entreprise, etc. etc. Et c'est ça le projet de formation. Donc c'est un vrai outil, c'est un vrai outil de communication interne, mais aussi externe. Et il faut le vendre, bien sûr, auprès des chefs d'établissement aussi en premier, et qui se disent sur NDRC, j'ai le moyen aussi de valoriser mon établissement à ce moment-là. Encore une fois, on est en séminaire, on a rêvé, on peut rêver, la réalité va être plutôt difficile. Prenons le temps, 2 ou 3 ans là-dessus, mais par contre, gardons le cap. On sait où on doit aller. Bon courage à vous tous, à vous toutes. Descendez-nous vos questions, ou bien posez-les sur Via Éduc. N'hésitez pas d'écrire des questions pour aller capter par Via Éduc, hein, si vous êtes inscrite sur Via Éduc. Faites la promotion des communautés Via Éduc autour de vous, autour de vos collègues. Et puis pour le reste, bon courage à tous et à toutes. Voilà.